Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Compte tenu de l'actualité, nous vous retrouvons Franck sur Europe 1, cependant avec un petit peu de retard. Bonjour.
Oui, bonjour Julia. Nous allons essayer de vous changer un peu les idées en vous parlant de belles choses et de belles personnes.
Jusqu'au 1er juillet se tient à Paris au musée Marmottan la première rétrospective jamais consacrée à l'œuvre de Berthe Morisot, l'un des plus grands peintres féminins de l'histoire. Alors après Rosa Bonheur, il y a 15 jours,
oui.
Franck, vous choisissez aujourd'hui de parler de cet artiste en robe et cheveux longs, n'est-ce pas ? Il s'agit de Berthe Morisot.
Mais oui, il y a très peu de femmes parmi les grands peintres. Et c'est une chance que le musée Marmottan nous offre cette exposition en ce moment. Berthe Morisot aura été finalement la seule femme impressionniste. Elle aura aussi été le modèle, l'amie d'Édouard Manet, avant d'épouser son frère Eugène et de donner naissance à la célèbre Julie Manet. Et
Julie Manet qui était la grand-tante de votre invité, Jean-Marie Roy.
Et oui, nous sommes toujours en effet, nous sommes dans cette semaine spéciale en compagnie des descendants de grands personnages. De l'académicien Jean-Marie Roy, je rappellerai d'emblée qu'il est certes apparenté à Berthe Morisot, mais surtout issu d'une incroyable dynastie d'artistes, de mécènes, de collectionneurs. La galaxie des Roirs revient illuminer Paris, titrait le Figaro il y a quelques jours. Autant dire qu'aujourd'hui, nous recevons une étoile.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La belle biographie que Dominique Bonnat consacre à Berthe Morisot sous un titre à la Gaston Leroux, Le secret de la dame en noir, ce beau récit commence par une évocation du portrait de Berthe par Édouard Manet, portrait dit au bouquet de violettes. C'est un des clous du musée d'Orsay. Je vous lis la description que nous donne Dominique Bonnat. C'est une femme en noir, le chapeau dont les rubans s'enroulent autour de son long col de cygne et la robe à peine échancrée sur sa peau mate ont l'éclat lustré des ailes du corbeau. Le noir a coloré les yeux sans pour autant effacer leur reflet d'or. Le regard qu'il porte sur la vie est mordoré et chaud, étranger à tout cet attirail funèbre que la femme arbore avec élégance et désinvolture. Un linge blanc transparaît sous le corsage, laissant un triangle de peau nue. Tandis que les cheveux châtains en désordre, pleins de mèches rebelles, s'échappent du chapeau, la bouche aux lèvres charnues ébauche une petite moue mi-câline, mi-boudeuse. Le teint doré, comme le fond des yeux évoque le soleil, l'Espagne, on ne sait quel passé, à Tolède ou à Cordoue, sur sa poitrine, au lieu d'un bijou, elle porte un bouquet de violettes. Eh bien, figurez-vous que ce tableau est une énigme. Lorsque Manet le peint en 1872, Berthe Morisot, qui est peintre elle-même et qui appartient à ce groupe qu'on va appeler très bientôt les impressionnistes, Berthe a déjà posé pour lui à 7 reprises. Après le portrait au bouquet de violettes, elle posera encore 3 fois pour lui. Berthe Morisot étendue, Berthe Morisot en chapeau de deuil à long voile et Berthe Morisot tenant un éventail. 14 portraits en tout, si l'on compte une aquarelle et 2 lithographies, Berthe Morisot est sans conteste le premier modèle de Manet. Or, contrairement au modèle professionnel que l'on fait venir à l'occasion, qu'on paie 10 francs la séance, Berthe appartient à la grande bourgeoisie. Elle n'a pas du tout besoin de cela pour vivre. 2 ans après les violettes, elle va même épouser Eugène Manet, le frère d'Édouard. Alors, pourquoi cette dame du monde, par ailleurs, tellement libre et affranchie, vient-elle jouer les modèles chez Manet ? Dominique Bonnat pose la question. Entre le peintre et son modèle, demande-t-elle, qui est peintre elle-même, entre le peintre et le peintre, en se fiant au regard de Berthe Morisot et aux multiples portraits qu'en fit Édouard Manet, on peut déduire dès le premier abord un mélange de séduction et d'admiration réciproque et une profonde complicité, quelque chose comme une amitié amoureuse. Un amour ? Ce qui est certain, c'est qu'ils se sont rencontrés 4 ans plus tôt, pendant l'hiver 1868. au Louvre, évidemment. C'est le peintre Fantin Latour qui a fait les présentations. Ce jour-là, Berthe était occupée à copier une des grandes toiles de Rubens pour Marie de Médicis. Vous savez, dans cette salle des Médicis qui, à l'époque, ressemblait encore à quelque chose. Manet est très élégant, frac et chapeau haute forme, très comme il faut, avec sa barbe blond roux et ses yeux doux et rieurs, presque caressants. Berthe est sans doute étonnée de voir si convenablement mis un homme qui est en train de révolutionner l'art. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été charmée d'emblée autant par l'homme sans doute que parce qu'il représente de transgressions. Dites-vous bien qu'à l'époque, Édouard Manet est à la pointe de la contestation artistique. Quant à Manet, si les sœurs Morisot lui ont paru charmantes, disons qu'il n'a pas été impressionné par leur peinture. Il va écrire à Fantin Latour un peu plus tard: les deux sœurs Morisot sont charmantes. C'est fâcheux qu'elles ne soient pas des hommes. Vous entendez ça, Julien ?
J'ai bien entendu.
Et voilà. Cependant, elles pourraient, comme femmes, servir la cause de la peinture en épousant chacune un académicien et en mettant la discorde dans le camp de ces gâteux. Il faudra du temps à Manet pour qu'il accepte Berthe comme artiste, comme peintre. Pour le moment, il se laisse offrir par son ami Alfred Stevens un portrait que le peintre vient de faire de Berthe. Il faut croire que ce portrait qui lui a été offert lui donne des idées, parce que peu de temps après, Édouard Manet va demander à Berthe Morisot de poser pour lui. Alors, je cite encore Dominique Bonnat, on ne s'en lasse pas, ce livre et la vivacité même. Elle apporte, nous dit Dominique Bonnat en parlant de Berthe, elle apporte sa fraîcheur, son élégance dans un univers où les odeurs de peinture et de tabac se mêlent à celles que des corps ont laissées. Il y traîne parfois, comme tombé du tableau qui leur présente, un mouchoir, un jupon ou un gant oublié dont s'étonnent peut-être les fantômes de cette ancienne salle d'armes. Pour Berthe, l'atelier de Manet, c'est cet autre monde qui l'attire, tellement différent de son univers à elle, aéré, ouvert sur le jardin et où Madame Morisot, maîtresse de maison exemplaire, ne cesse de mettre de l'ordre. Berthe arrive chez Manet, rue de Saint-Pétersbourg, en terre inconnue. Elle apporte avec elle sa personnalité à la fois passionnée et mesurée, sa fièvre sous l'apparente froideur.
La mort d'Isolde, extrait de Tristan et Isolde, opéra de Richard Wagner.
Et oui, c'est le soutien orchestral de ce Isoldes Liebestod, chant d'amour à mort exactement de Wagner. On est bien dans l'ambiance et dans cette époque. Alors Dominique Bonnat, ce secret de la dame en noir dont vous parlez, c'est un secret épistolaire. Car si actuellement encore existe un grand nombre de lettres reçues et envoyées par Berthe Morisot, toute la partie de la correspondance avec Édouard Manet a purement et simplement disparu.
Oui, c'est vrai qu'on a aujourd'hui encore beaucoup de lettres de Berthe Morisot. On peut aller consulter au musée Marmottan à Paris. Elle a écrit absolument à tous les impressionnistes qui étaient ses grands amis, qui étaient Degas, Renoir. Elle a écrit à Mallarmé. Mais avec Édouard Manet, il y a seulement 4 petits messages très officiels où il s'appelle Madame et Monsieur. Donc on peut dire que la correspondance est vraiment minimale. Mais elle reste là néanmoins un peu justement comme une énigme, comme une trace de ce qui a pu être la véritable histoire de Manet et de Berthe Morisot. Histoire qui se tisse au secret d'un atelier, effectivement, de la rue Saint-Pétersbourg. Au moment où Manet peint ses grands tableaux, il y a aussi les 11 portraits de Berthe Morisot. Sur ces 11 portraits, donc 9 fois en noir et seulement 2 fois en blanc. Berthe Morisot incarnant pour lui la femme qui chante le mieux la couleur qu'il préfère et qui est ce noir, non pas funèbre, mais soyeux, mais voluptueux, profond. Le noir de Manet.
C'est étonnant parce qu'on peut dire que la rencontre entre Berthe Morisot et Édouard Manet, c'est la rencontre de la peintre du blanc et du peintre des noirs.
Oui, parce que c'est vrai que Berthe aime les tons pastels, et parmi ces tons pastels, elle a une sorte d'obsession pour le blanc, blanc plumage de cygne sur l'eau d'un lac, c'est là qu'elle est la plus grande.
Il y a évidemment, à travers ces deux personnages, toute une galaxie, pour le coup, d'artistes. Il y a tout un milieu que j'aimerais que nous explorions ensemble maintenant. Berthe Morisot n'est pour nous qu'une guide cet après-midi, à travers un très beau Paris, ce Paris très cultivé, ce Paris intellectuel, si j'ose l'anachronisme, de l'époque impressionniste.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Nous vous retrouvons, Franck, avec vos invités aujourd'hui sur Europe 1. Dominique Bonnat, qui est biographe et romancière, et Jean-Marie Roir de l'Académie française, arrière-petit-neveu de Berthe Morisot.
Eh oui, Jean-Marie Roir, dans ses souvenirs intitulés « Une jeunesse à l'ombre des Lumières », ça c'est vraiment palpitant. Nous avons de bons livres aujourd'hui, je le souligne. Ce sont des conseils de lecture que nous vous donnons, et non pas seulement des illustrations. Jean-Marie Roir évoque bien sûr le Trocadéro, le quartier de Berthe Morisot, écrit-il, le cimetière de Passy où elle repose avec son mari Eugène Manet, donc le frère d'Édouard, vous avez bien compris, dans le même caveau que son beau-frère Édouard Manet. Un peu plus loin, vers l'avenue Foch, l'ancienne rue de Villejuste devenue, grâce à son célèbre résident, la rue Paul-Valéry. Dans cette rue aux 40 habitaient mes oncles et mes cousins, écrit Jean-Marie Roir, dans un immeuble que Berthe Morisot et Eugène avaient fait construire. Leur fille, tante Julie, qui avait épousé le frère de mon grand-père, habitait le quatrième étage. C'était un véritable musée consacré à Manet, à Berthe Morisot, à Degas, à Renoir. La cousine de Julie, Janie, devenue la femme de Paul Valéry, vivait à l'étage du dessous. Au deuxième, le fils de Julie, mon oncle psychanalyste, recevait un certain nombre de membres de la famille, dont moi, qui venaient lui soumettre leurs perturbations mentales. Il était débordé. Au rez-de-chaussée vivaient mes cousins, dans l'appartement où Berthe Morisot avait aménagé un grand atelier très haut de plafond qui était aussi son salon. L'ambiance, très gaie en apparence, éclectique, théâtrale, dissimulait des drames. Et Jean-Marie Roir d'ajouter, dans le fond de la cour, un grand atelier qui avait été celui du mari de Julie servait à entreposer la production familiale. Les soupentes, greniers, caves débordaient de toiles, de châssis dans un bric-à-brac de chevalets, de boîtes à peinture, les héritages des Manet, Édouard et Eugène, des Morisot, Berthe et Edma, puis de leurs nièces, les toiles enfin de Julie et d'Ernest, peintres l'un et l'autre, de Paul Valéry qui peignait à l'occasion, celle de mon père, de mon oncle et d'Henri, l'arrière-grand-père. Mais quel bain de culture et de peinture, on peut dire, Jean-Marie Roir, que vous êtes né au milieu des peintres.
Oui, vous comprenez pourquoi.
Et les toiles.
Vous comprenez pourquoi j'ai fui la peinture et je me suis réfugié dans la littérature.
Qui est une autre forme de peinture, ça.
Voilà, voilà, voilà. C'est ce que m'a dit un jour une lectrice. Elle m'a dit, vous croyez avoir fui la peinture, mais dans vos livres, il y a surtout des portraits, des paysages.
Et oui, et des couleurs. Alors, toute cette famille, en fait, extraordinaire, cette famille des Roirs, à laquelle, d'ailleurs, David Asio, chez Fayard, vient de consacrer un grand livre qui s'appelle « Le roman des Roirs, la saga de 1850 à 2000 », toute cette famille cultivait le souvenir d'Édouard Manet, disons-le.
Je dirais que, bien sûr, du côté de Julie, moi j'étais élevé par Julie, donc c'est vrai que Oncle Édouard, comme elle l'appelait, avait une grande importance. Il y avait chez elle 13 Manets, 13 Manets, dont les grands-parents dans sa chambre. Mais dans une ambiance très bon enfant. Nous, on jouait à la carabine à plomb, fléchette. On envoyait quelquefois une flèche dans un Berthe Morisot, dans un Manet. Et même un jour, il s'est passé, puisque Dominique Bonnat évoquait justement le bouquet de violettes. Un jour, dans la salle à manger, il y avait, au-dessus de la desserte à pain, je m'en souviens encore, il y avait la brune au sein nu, qui était une femme très plantureuse, magnifique, et à côté, le bouquet de violettes. Donc, un jour, on a ouvert une bouteille de champagne pour un anniversaire, le bouchon est parti, en plein dans le corsage, et vous pouvez voir encore aujourd'hui, au musée d'Orsay, on voit l'énorme trou qui a été ravistolé. Donc, c'était une ambiance si vous voulez, très d'amour artistique. Et en même temps, c'était pas, on se disait pas, ah, tiens, ça vaut tant, ça fait oui, tel bien prix. Sûr. C'était vraiment une religion de la peinture, une religion de l'art. Et en même temps, les enfants pouvaient s'épanouir, ils pouvaient jouer. Enfin, on ne disait pas, attention, ne bouge pas, ce sont des œuvres importantes. Enfin non, il y avait ce sentiment, bien sûr, de l'attachement très profond de Julie pour son oncle et pour sa mère, parce qu'elle vouait une religion à sa mère, mais en même temps, une atmosphère très bonne enfant.
Est-ce que vous aviez, vous, des préférences parmi tous ces grands ancêtres? Votre père lui-même était peintre, il participait de cette religion dont vous parlez, évidemment. Est-ce que Berthe Morisot occupait une place à part?
Bien sûr, puisque finalement, beaucoup de gens de la famille ont écrit sur Berthe Morisot. Mes cousins m'ont demandé la préface du catalogue aujourd'hui, mais mon grand-père a écrit un petit livre sur Berthe Morisot. Denis, le fils de Julie, a écrit également sur Berthe Morisot. Donc c'est vrai que c'était... Mais parce que c'était lié à la fois à un élément affectif, mais surtout, je crois, une admiration. C'est pas parce que quelqu'un est de sa famille qu'on ne peut pas l'admirer.
Bien sûr.
Et puis en plus, je dirais, et ça c'est pourquoi le livre de Dominique Bonnard était si important, il y a toujours une injustice vis-à-vis de Berthe Morisot. Donc on a en plus envie de défendre quelqu'un qui... Parce que c'est vrai que c'est pas normal qu'il n'y ait pas eu une grande exposition nationale pour Berthe Morisot, étant donné qu'elle est révérée à l'étranger, aux États-Unis. Enfin, maintenant c'est incontestable.
Elle fait partie des grands impressionnistes, voilà, incontestablement.
Alors, il y a une exposition à Lille, il y a une exposition à Martigny, en Suisse, mais Paris, ne sait pas, à mon avis, a été injuste avec Berthe Morisot.
Et bien voilà qui est réparé maintenant.
Voilà, maintenant c'est réparé grâce à l'exposition de Marmottan.
Il faut aller au musée Marmottan voir cette grande rétrospective Berthe Morisot. Alors, si l'on devait définir, c'est toujours un peu difficile à la radio, mais en même temps c'est un défi intéressant à relever, si on devait définir cette peinture Dominique Bonnat, comment, par quel mot pourrait-on la faire voir à nos auditeurs? On est dans un impressionnisme qui reste quand même assez, j'ai envie de dire, à mi-chemin entre Manet et Monet. On est encore très figuratif avec une touche assez vive, des couleurs plutôt pâles, une luminosité tout simplement incomparable.
Mais c'est vraiment le mot qui vient, c'est-à-dire c'est une artiste de la lumière. Tout est lumière chez Berthe Morisot, à travers les sujets les plus simples, parce qu'elle peint toujours des jeunes filles, des enfants, des femmes, mais toujours dans un âge jeune. Mais à travers tous ces modèles, c'est toujours cette lumière particulière qui est la sienne, qui est une translucidité. On a dit très souvent que qu'elle avait le génie de l'aquarelle. Elle peint même les huiles comme si c'était de la peinture à l'eau. Tout est léger chez elle, et cette légèreté n'exclut pas l'émotion et la profondeur.
Il y a de la force chez Berthe Morisot, Jean-Marie Roire. Il n'y a pas, il n'y a rien d'émollient. Il ne faudrait pas la croire mièvre. Hein.
Vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs le grand malentendu. Je crois que dans la mesure où il y a une joliesse, un peu
une sorte de douceur de surface,
qu'il y a une parenté avec Fragonard, mais je pense qu'il y a une force extraordinaire sous cette apparence très féminine. Et évidemment, ce qu'il y a d'extraordinaire chez elle, ce que j'ai noté dans ma préface, c'est à la fois ce caractère très, très fort et très douloureux, cette tristesse qu'il y a chez Berthe Morisot, et en même temps, cette peinture qui est la peinture du bonheur. On a l'impression qu'elle a toujours été tellement heureuse, qu'elle s'efforce d'exprimer le bonheur, et alors que sa vie a été une vie, on le voit dans sa correspondance, très douloureuse.
Est-ce que sa méditation, dans le sens lumineux que peut avoir le terme, était somme toute réservée à la peinture? C'est possible. J'ai toujours eu la sensation du gouffre, écrivait-elle, gouffre de l'action, du rêve, du souvenir, du désir et du beau.
C'est ouais, terrible.
Elle était au bord d'une sorte de précipice intérieur.
C'est-à-dire, je crois que c'est une exigence de peintre. C'est quelqu'un qui a eu une telle goût de l'absolu en matière de peinture qu'elle ne pouvait que souffrir. Voilà, ça, je crois que c'est le propre des très grands artistes, c'est de n'être jamais satisfait.
Disons un mot de cette grande rétrospective du musée Marmottan. On voit tout Berthe Morisot, Dominique Bonnat?
On voit beaucoup de Berthe Morisot, on ne voit pas tout, parce qu'elle a peint bien d'autres toiles qui restent secrètes dans des collections privées pour la plupart, mais c'est une magnifique rétrospective, un peu différente de celle qui a eu lieu en l'an 2000 à Lille, puis à Martigny. Mais il y a à Marmottan aujourd'hui, outre la belle collection permanente qui est à Marmottan, des toiles qui sont vraiment venues du monde entier et tout particulièrement des États-Unis.
Nous retrouvons Berthe Morisot et les impressionnistes et la famille Roire et tout cet univers extraordinaire dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à Berthe Morisot, Franck.
Alors, que vous commenciez, Julia, à vous y repérer dans la famille Roire ou que vous y soyez totalement perdu, vous aurez compris en tout cas qu'il s'agit d'une de ces très rares dynasties de l'art, peut-être la seule qui ait survécu en France. Comme dans le jeu bien connu des sept familles, dans cette famille Roire, je demande les filles ou plutôt les cousines, Yvonne et Christine Roire, dont les noms ne vous disent probablement rien, mais dont vous avez forcément un jour croisé les jolis visages, puisqu'ils figurent sur l'un des plus célèbres tableaux de Renoir, Yvonne et Christine au piano. Vous savez, la toile est de 1897, vous pouvez la voir si vous passez par là, au musée de l'Orangerie, dans le jardin des Tuileries. Pour peindre ces demoiselles, Renoir s'est rendu lui-même chez leur père, le peintre et collectionneur Henri Lerolle, avenue du Ken, dans le 7e arrondissement. Mais forcément, sitôt le tableau achevé, il a pris la direction de l'atelier de Renoir, où il restera jusqu'à la mort du grand homme. Quand Christine et Yvonne posent pour Renoir, l'une a 20 ans, l'autre 18, Yvonne l'aînée est assise au piano en robe blanche, Christine la cadette est en robe rouge, oh très rouge, elle tourne les pages de la partition. Dans un univers pétri de peinture, ces deux sœurs, disons-le, baignent dans la musique. Yvonne est la plus douée. Debussy la surnommera ma petite Mélisande. Il est vrai que sur le même piano que vous voyez là, sur la toile de Renoir, Debussy jouera pour la première fois les morceaux de son Péléas et Mélisande, tout juste achevés, à peine achevés même. Parmi les amis des deux sœurs, on trouve notamment Julie Manet, donc la fille de Berthe Morisot. Vous avez bien compris ça maintenant, on y arrive, parce que c'est vrai qu'il faut s'y repérer. Moi, j'ai un arbre généalogique sous les yeux, ça m'aide pas mal, je vous avoue. Cette Julie Manet avec laquelle elle se rend au théâtre, à l'opéra, au concert, dans les musées. Beaucoup d'harmonie dans tout cela, beaucoup de bonheur et puis une fin tragique. Ces deux gars, le peintre préféré de leur père, qui a eu l'idée de les marier aux frères Eugène et Louis Roire, les fils de son ami, le collectionneur Henri Roire, Yvonne épouse Eugène, ils auront deux garçons et connaîtront une vie conjugale infernale, disons-le, semée de disputes parfois violentes. Il est vrai qu'Eugène, quand on a... Il faut dire que cet Eugène, on l'a un petit peu forcé à se marier, est homosexuel. Le destin de ces deux-là s'éternisera jusqu'à la veille de la dernière guerre dans une atmosphère, disons-le, de cauchemar réveillé. Quant à Christine, elle a épousé Louis Roire, un terrible coureur de jupons. On imagine de ce côté également les chamailleries, mais elles sont peut-être moins profondes. Elles n'empêcheront pas la naissance de sept enfants, dont Augustin, le père de Jean-Marie Roire. Christine meurt en juillet 1941 d'un cancer. Elle avait 62 ans. Yvonne ne va survivre à sa sœur que 3 ans. À la mort de Gênes, il ne lui reste rien pour vivre. Tout lui a été enlevé, le château, les terres. Elle trouvera refuge chez des religieuses à Saint-Geniès-d'Olt. Et le 30 mai 1944, elle se suicide en se jetant dans le Lot. Oui, je parle bien d'Yvonne, qui grâce au pinceau de M. Renoir, continuera toujours à jouer du piano.
Nuit d'étoiles sur Europe 1, composée par Claude Debussy et interprétée par Nathalie Dessay, Franck.
Deux sœurs, c'est le titre de cette biographie croisée. Yvonne et Christine Roire, les muses de l'impressionnisme que Dominique Bonnat vient de donner dans la collection Biographie Grasset. J'ai résumé ça, moi, à très très grands traits, mais ça finit mal quand même. Et puis, non seulement ça finit mal, mais elles ont des vies difficiles, les deux.
Elles ont
des mariages difficiles,
par la suite, ces deux gars qui avaient eu l'idée de les marier avec deux frères Roire, mais il avait également imaginé de marier Julie Manet avec un frère Roire, de sorte que Julie est la belle-sœur de ces deux personnages dont je parle dans le livre. Et c'est leur lien vraiment de famille. Et sur les trois mariages, l'un a été tout à fait réussi, celui de Julie Manet, mais les deux autres, c'est vrai, sont difficiles. Et pourtant, c'est une fresque du bonheur, c'est une fresque du bonheur qui dure toute l'enfance, une enfance heureuse, et qui a ce privilège d'être à la fois proche de Debussy, proche de Renoir et de Degas. Degas les a beaucoup photographiés aussi, chez elle, avenue Duquesne, chez leur père, Henri Lerolle, qui était peintre. Donc elles ont eu à la fois...
Qui avait épousé l'héritière Jacob d'Esmalter, hein, de très très grand ébéniste.
Voilà. Mais ce qui est fascinant, surtout dans cette vie des deux sœurs, c'est qu'elles sont entourées des génies de leur temps, de ceux qui vont laisser un nom à la fois dans la peinture, la littérature et la musique de cette fin du XIXe siècle, mais qui étaient pour eux des amis proches, des intimes. J'écoutais Nathalie Dessay et en même temps, j'avais un peu l'impression que c'était Yvonne qui chantait, puisque elle avait une voix de Rossignol, un peu cette voix de Nathalie Dessay qui est merveilleuse.
C'était le but, alors c'est tant mieux si ça a marché.
Elle chantait avec Debussy, elle jouait du piano avec lui, sur ce piano que Renoir a peint.
Jean-Marie Roir, vous n'avez pas connu votre grand-mère qui a disparu avant que vous ne naissiez, on vous en parlait ?
Bien sûr, tout ce qu'évoque Dominique Bonnat dans son livre, bien entendu, ça faisait partie de l'histoire familiale et tous ces liens qui étaient tissés avec tellement d'écrivains, de peintres, où on se perd un peu, même moi je me perds un peu dans ce... C'est extraordinaire, c'est un mouvement, si vous voulez. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est qu'on dit, voilà, les Américains ont découvert l'impressionnisme. Alors là, vraiment, c'est l'exemple contraire. Le livre de Dominique Bonnat montre bien que, au fond, les vrais, les découvreurs de l'impressionnisme, aussi bien Henri Roir a découvert Manet, Degas vers 1870, et Henri Lerolle également, qui était un grand collectionneur. Voilà, donc, je pense que ça montre, c'est un autre aspect de la bourgeoisie. On imagine que la bourgeoisie, c'est toujours des gens très conservateurs, qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Là, ils ont été des novateurs.
Dans votre famille, il y avait l'art, il y avait la foi aussi. Vous le montrez très bien dans ces souvenirs. On vivait dans une sorte de bain et artistique et religieux.
Voilà, la religion, le catholicisme. Alors du côté de Lerolle, c'était le catholicisme de gauche, progressiste. Et du côté de mon grand-père, c'était alors là le catholicisme de croisée. Bon, alors évidemment, c'était l'eau et le feu, ils ne s'entendaient pas. Ça posait beaucoup de querelles. Mais il y avait un mot sur de Degas, justement, sur le mariage de mon grand-père et de ma grand-mère. Et on lui disait, mais ça n'a pas marché, votre mariage. Il disait, mais vous savez, avec leurs caractères respectifs, ça aurait fait deux divorces. Parce qu'ils ont tous les deux très mauvais caractères.
Donc finalement, en les mariant ensemble, on n'aura fait qu'un divorce. C'est ce que voulait dire Monsieur Degas, comme disait Sacha Guitry pendant une interruption. Tout à l'heure, je parlais de ce film magnifique, Ceux de chez nous, où l'on voit vraiment s'animer sur l'écran les mythes de cette époque, aussi bien Rodin sculptant que Maître Henri Robert faisant une plaidoirie. Et l'on voit effectivement Monsieur Degas, comme disait Sacha Guitry, sur le coin d'un trottoir. Oh, c'est une image volée, hein, il faut le dire. Donc on l'aperçoit seulement, mais on le voit vivre. On voit aussi, ça c'est plus impressionnant, on voit Auguste Renoir en train d'essayer de peindre avec ce qui lui reste de doigts, le pauvre, hein, les rhumatismes ont eu raison de ses mains. Et dit Sacha Guitry, en regardant ces images, les artistes des temps futurs sauront qu'on peint avec ses yeux et non avec ses mains.
Alors Julie prononçait Degas, Monsieur Degas. Degas. Elle disait Oncle Édouard et Monsieur Degas.
Et ça doit être donc comme ça qu'on
peut dire. C'était la prononciation de l'époque.
Alors cette époque, ce bain culturel, artistique incroyable, se faisait en marge de l'Académie des Beaux-Arts, se faisait en marge de l'orthodoxie artistique, mais en même temps elle se faisait dans la bourgeoisie. C'est ce qu'on a parfois un peu du mal à comprendre, Dominique Bonnat.
Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette bourgeoisie s'est intéressée à des artistes novateurs qui étaient vraiment, même on pourrait le dire, contestataires. C'était des refusés au salon officiel. Mais en écoutant justement parler de Degas, de Renoir, je me dis au fond ce qui a été leur chance, évidemment, c'est leur vieillesse. Ils ont vécu très vieux et ils ont eu le temps d'atteindre de leur vivant la gloire, le succès. Alors que Berthe Morisot, morte très jeune puisqu'elle meurt à 54 ans, part avant que l'on reconnaisse son talent. Et cette différence d'âge entre eux, sans doute, qui est sensible peut-être encore aujourd'hui.
Dominique Bonnat, deux sœurs, Yvonne et Christine Roire, les muses de l'impressionnisme, c'est chez Grasset, de même que Berthe Morisot, le secret de la femme en noir. Merci beaucoup Dominique Bonnat et merci à Jean-Marie Roire de l'Académie française, une jeunesse à l'ombre des Lumières parmi un très grand nombre d'ouvrages toujours très réjouissants à lire. Ce sont vos souvenirs en quelque sorte et c'est votre regard assez tendre et mordant à la fois sur cette famille Roire, c'est réédité chez Folio. Et puis je cite il y a un instant de David Asio, le roman des Roire, justement, qui vient de paraître chez Folio avec ce sous-titre « La saga de 1850 à 2000 ». Elle est encore bien vivace, cette famille Roire, et elle va encore nous surprendre dans les temps à venir, n'est-ce pas ? Rassurez-nous.
J'espère vous surprendre.
Nous l'espérons tous, bien entendu. Quant à l'exposition, vous pouvez la voir jusqu'au 1er juillet, bien entendu, au musée Marmottan. Berthe Morisot, tout simplement, cette grande rétrospective qui fait l'objet, du reste, d'un très beau catalogue. Bonjour Elena Mornin.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça va être une émission, je pense, très agréable et qui peut vraiment vous plaire, Franck. Nous allons parler...
Mais vos émissions me plaisent toujours,
oui, mais
vous
celle-ci particulièrement, et vous aussi, vous tous d'ailleurs. Nous allons parler des livres qui ont changé notre vie.
Oh mon Dieu, oui.
S'il y en avait un pour vous, Franck,
ah,
je vous pose
moi,
une colle.
C'est évident, non, c'est pas du tout une colle. Moi, ma vie a été transformée au sens propre par la recherche du temps perdu de Marcel Proust.
Proust, j'en ai fait
4 ans de ma vie et une vie qui change, on peut dire.
Proust est visiblement un grand thérapeute pour ses lecteurs. On en parle de Proust et des autres dans un instant sur Europe 1. Et vous pouvez d'ailleurs nous envoyer à vous sur europe1.fr ou au 3921 les livres, les titres des livres qui ont changé ou des auteurs qui ont changé votre vie. À tout de suite avec les experts.
Je reste à l'écoute. Merci beaucoup Elena. Nous nous retrouvons demain, Julia.
Avec grand plaisir sur Europe 1 où il est 14h.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.